Bienvenue sur Mediapart pour ce nouveau numéro d'Un Monde à Vif, l'émission qui décrypte les grands enjeux internationaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Birmanie, où l'armée a décidé de reprendre totalement les rênes du pouvoir sous prétexte de fraudes électorales aux élections législatives de novembre dernier. L'état d'urgence est instauré pour un an, les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits, les accès aux réseaux sociaux sont restreints et 150 dirigeants politiques ont été arrêtés. Aung San Suu Kyi, qu'on voit sur cette photo, figure de l'opposition sous la junte, était devenue la chef de gouvernement de facto depuis le retour du pouvoir au civil, et bien elle est assignée à résidence à nouveau. Alors pour mieux comprendre cette situation, je reçois Julie Lavial-Prélois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'EHESS en sociologie politique et à vos côtés, Sophie Boisseau-Durocher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste et vous êtes chercheuse associée à l'IFRI. Je me tourne vers vous pour la première question. D'abord, tout simplement pour caractériser l'événement qu'on a sous les yeux. On va revenir sur la longue durée du régime et de la construction nationale de la Birmanie. Mais d'abord, ce qu'on a sous les yeux, évidemment, on a les mots de coup d'État, de putsch qui viennent à l'esprit, puisque c'est l'armée qui est en cause. Et en même temps, on part d'une situation où l'armée avait conservé des parcelles de pouvoir législatif, exécutif, bien effectives.
Bien sûr, et où la Constitution n'a pas encore été abolie. Donc effectivement, parler d'un coup d'État ou d'un putsch, c'est-à-dire par les armes, serait peut-être un peu trompeur. Parce que finalement, on voit que toutes les choses ont été préparées et bien huilées. Il s'agit plutôt, comme le dit mon collègue Renaud Aigretteau, d'un coup de force de l'armée. Et au fond, ce coup de force, il consiste à reprendre, comme vous l'avez dit, les rênes du pouvoir, de reprendre le contrôle du pouvoir tel qu'il est prévu par la Constitution de 2008. Et en fait, un des principaux arguments utilisés par l'armée, c'est que ce pouvoir lui échappait. Et donc, il fallait reprendre le contrôle pour que le processus de transition n'aille pas trop vite et que l'armée maintienne son contrôle sur les transitions en cours.
D'accord. Mais l'argumentation constitutionnelle, elle est un peu frauduleuse quand même. Et il n'y a pas d'éléments empiriques sur les fraudes électorales.
On est évidemment sûr que l'argument est frauduleux. D'une part, la commission électorale n'a pas observé de fraude majeure. Il y a eu également des commissions extérieures financées par l'Union européenne, par les États-Unis, par le Japon. Personne n'a effectivement observé de fraude majeure. Donc on sait bien que le coup de force ne se justifie pas. Néanmoins, ce qui l'explique précisément, c'était la menace perçue comme telle par l'armée de perdre les rênes du pouvoir.
Alors, on va y venir quand même. Je rappelle que depuis le week-end dernier, donc des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes. On voit à l'écran des photographies de ces protestations prises par des étudiants en journalisme à Rangoon, sur lesquelles on peut voir des banderoles, des pancartes qui en appellent à la chute de la dictature, au respect du vote populaire. Est-ce qu'il faut craindre un bain de sang, comme cela est déjà arrivé par le passé, ou y a-t-il quoi que ce soit qui puisse freiner les militaires dans la répression ?
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas jouer au plus malin et sincèrement, on ne le sait pas. Les militaires birmans restent relativement imprévisibles. Donc, il faut faire attention. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois qu'on a été dans une situation similaire, c'est-à-dire en 1988, ça s'est terminé par un bain de sang. Et même en 2007, au moment de la révolution Safran, l'armée n'a pas hésité à tirer sur des moines. Donc, si vous voulez, on ne peut pas véritablement savoir. Ce qui est sûr aujourd'hui, néanmoins, c'est que l'armée n'avait probablement pas mesuré le degré de détermination de la nouvelle génération et sa capacité d'entraînement sur l'ensemble des citoyens birmans. C'est une génération qui est d'une part mieux formée, c'est une génération qui est mieux équipée et c'est une génération qui est mieux connectée. Et donc tout cela donne quand même des ressources course, si vous voulez. La question maintenant est de savoir comment vont se, sur quel terrain vont se produire les compromis, pour, en espérant qu'il y ait des compromis possibles.
Alors, question pour toutes les deux. Je vous donne la parole, peut-être, Julie Laviale-Préloise, sur, au fond, le timing. D'abord, le choix du coup de force, de faire le coup de force, ils n'étaient pas forcés, et le choix de le faire maintenant, parce qu'il y a eu des annonces assez contradictoires dans les semaines qui ont précédé ce coup de force. Comment on l'explique ? Est-ce que ce sont des choix politiques collectifs ? Est-ce que l'intérêt personnel du chef des armées a prévalu ? Qu'est-ce qu'on sait ou qu'est-ce qu'on a comme indice aujourd'hui ?
L'un des éléments principaux, c'est notamment que la Ligue nationale pour la démocratie, donc le parti d'Aung San Suu Kyi, souhaitait donc mettre en place une limite d'âge donc de 65 ans qui aurait menacé donc Myung Lein.
Qui est donc le chef de l'armée.
Pardon, le chef de l'armée, absolument. Ouais. Et qui aurait donc été contraint de partir à la retraite. Donc voilà, ça c'est un argument principal qui nous aiguille pour comprendre ce timing.
Je crois que sur le fond, à nouveau, on revient dans le rôle que l'armée prétend avoir sur les rouages politiques. Au fond, l'armée veut accompagner cette transition parce qu'elle veut en bénéficier. Or, depuis les élections de 2015, c'est la LND qui, au fond, fait, si vous voulez, qui assure cette trajectoire. L'armée n'a pas hésité à mettre de vrais obstacles sur la route d'Aung San Suu Kyi. Le premier, par exemple, l'article 59F de la Constitution de 2008 qui interdit à tout birman, tout citoyen birman qui a épousé ou qui a des enfants à l'étranger d'assurer les fonctions de présidente ou de vice-président. Et elle a magnifiquement, entre guillemets, contourné cette contrainte en avril 2016 en se créant le poste de conseillère spéciale. De la même façon, en 2017, les Rohingyas, c'était aussi une façon de gêner, on en reparlera, Madame Aung San Suu Kyi. Elle a réussi à contourner à peu près l'obstacle. Et puis là, en mars 2020, elle a, je dirais, commis l'irréparable aux yeux des militaires, c'est-à-dire que la LND a déposé des amendements au Parlement pour modifier la Constitution. Et là, évidemment, les militaires ont senti le vent du boulet et ils ont bien compris qu'avec un Parlement qui était constitué à plus de 82% de parlementaires LND, les discussions allaient être beaucoup plus ciblées et beaucoup plus difficile pour eux. Donc, si vous voulez, là, il y avait, je dirais que c'est un peu le temps long. Et puis, il y a le temps court, qui est que la première réunion du Parlement devait se tenir le lundi 1er février. Ça, c'est un élément, il fallait empêcher symboliquement cette réunion. Et puis, il y a un autre aspect qu'on souligne assez peu, mais il se trouve que, face aux rumeurs de coup d'État, les ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne, du Japon, de l'Australie, ont écrit une lettre ouverte en demandant à l'armée de respecter le résultat des élections et de maintenir le processus démocratique. Et là, je crois, d'après ce que j'ai compris, d'après mes informations à Yangon, ça a été très mal perçu. Ce sont des militaires, une institution ultranationaliste. Le fait qu'on puisse leur donner une injonction de respecter la Constitution a été très mal perçu. Ça a peut-être aussi activé le processus.
Alors, vous parlez de nationalisme. J'avais une question sur cette fameuse LND, donc cette ligue, le parti de Aung San Suu Kyi. Là, évidemment, il y a un enjeu de conflit avec les militaires pour la répartition du pouvoir entre civils et militaires, si on va au bout de la transition démocratique et de l'existence d'un minimum de pluralisme ou pas. Mais sur le fond, en termes idéologiques, en termes de vision de la nation, de vision de l'économie, est-ce qu'il y a des divergences fondamentales entre la LND et ce qu'on connaissait de la junte militaire, Julie ?
Bien, en réalité, alors déjà, il faut préciser que la LND, cette Ligue nationale pour la démocratie, et la junte militaire, elles ont une histoire commune qui trouve sa source dans cette guerre de libération de la Birmanie et par la figure d'Aung San.
Qui est le père d'Aung San Suu Kyi. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait. Et donc Aung San libère la Birmanie, il est érigé en héros national, c'est un véritable symbole de lutte en Birmanie. Et donc, en fait, la junte militaire va utiliser ce symbole pour se légitimer en rejouant constamment la guerre de libération, en réalité. Hein. Donc, ce ne sont plus les colons anglais, mais ce sont donc tantôt les puissances étrangères, tantôt les minorités internes qui vont faire figure de colonisateurs. Mais la LND va également puiser dans ce registre de légitimation, alors qui n'est pas un rejet de la guerre de libération, hein, mais on a également des références à Aung San, qui est une figure ambivalente. Hein. On est quand même sur quelqu'un qui est porté un nationalisme bamar assez, assez fort, assez appuyé. Donc voilà, il y a des ressources idéologiques qui sont communes. Plus largement, il y a cette lecture du politique qui demeure basée sur l'ethnique, hein, qui demeure essentiellement comprise comme ethnique. Et cette problématique-là, elle ne permet pas pour l'instant de penser des résolutions claires. Enfin, du moins, ça semble être un problème de longue durée et la LND ne propose pas de nouveaux cadres pour penser ces identités politiques.
Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que précisément, je crois que c'est sur la question de l'identité nationale que divergent fondamentalement l'armée et la LND. Et c'est un point quand même important, parce que finalement, l'armée a fait son lit, si vous voulez, sur les divisions dont a hérité le pays après le départ des Britanniques. Et finalement, l'armée agite aussi les tensions quand cela peut servir ses intérêts ou justifier son rôle politique. Or, ce qu'on a vu du peu de messages politiques finalement, parce qu'il a, ça a duré très peu de temps, ce passage d'Aung San, si vous voulez, aux manettes du pays, quand il a été donc vraiment à peu près aux manettes, c'est-à-dire entre 46 et juillet 47, hein, donc très court, ce sur quoi lui a insisté, c'était de réviser les fondements citoyen de la Birmanie. Et ça, c'est un point essentiel. Et c'est un point qu'il a essayé de mettre en œuvre avec les accords de Panlong, dont on a suffisamment parlé, et dont sa fille a fait son combat prioritaire. Et alors, la LND ne l'a peut-être pas fait de façon suffisante, mais néanmoins, elle a essayé de mettre en place des commissions, notamment une commission de réconciliation nationale, pour essayer de rassembler et de ramener, si vous voulez, tout le monde autour de la table. C'est une tâche très difficile.
Effectivement, les promesses à l'époque qui avaient été faites lors de cette conférence après donc, l'assassinat de Aung San n'ont pas été tenues pour beaucoup. Justement, c'est une des questions que j'avais, puisque dans un article assez récent, vous évoquez ces conférences de Panglong. Aujourd'hui, il y en a certaines qui ont été... une qui a été tenue, nous dites, conférence de Panglong du 21e siècle. Justement, je vous laisse réagir donc, au désaccord ou à la nuance que vient d'exprimer Sophie Boisseau-Durocher et expliquer quelle est la différence à 70 ans d'écart entre ces deux conférences baptisées du même nom ?
Donc, en effet, il y a une ambition beaucoup plus fédérale, hein, bien entendu, qui est portée par la LND. Ce que je souhaitais souligner, donc en disant ce que j'énonçais précédemment, c'était, si vous voulez, l'idée que quand on met autour de la table donc les différentes parties, on met autour de la table les groupes ethniques armés. Toujours, on reste dans cette... ça avait été critiqué notamment par la rapporteuse des Nations Unies, Li Yanggi, qui faisait la remarque de ces conférences de Panglong, donc pour le 21e siècle, pardon, qui n'étaient peut-être pas suffisamment inclusives puisqu'elles ne permettaient pas d'accéder à d'autres pans de la société, d'une société civile en train de naître, on l'espère. Ouais. Enfin, voilà.
Mais ce que dit Aung San Suu Kyi, c'est qu'il faut agir par emboîtement. On ne peut pas réunir autour de la table des acteurs s'ils ne sont pas pacifiés. Donc le premier point, c'est d'avoir des accords de cessez-le-feu. Hein, ça, c'est le premier point. D'accord. Une fois qu'on aura signé...
Un argument par étape. Quoi.
Voilà, exactement. Et une fois qu'on aura signé des accords de cessez-le-feu, on pourra penser les fondements fédéraux du nouvel État, entre guillemets. Mais évidemment, tout ça va à l'encontre des intérêts de l'armée pour une multitude de raisons. Hein. Et donc, ça gêne. Et l'armée n'a pas intérêt à ce que cet accord aboutisse. Hein, voilà, donc ça c'est quand même un point qui est essentiel et qui marque une vraie divergence entre l'armée et la LND.
Alors je viens un peu quand même à la question qui a beaucoup agité les consciences ou la presse occidentale, donc par rapport à Aung San Suu Kyi qui était devenue une icône de la démocratie birmane et qui a subi des critiques extrêmement violentes en Occident pour avoir fermé les yeux sur donc, la politique de nettoyage ethnique. Certains disent de génocide contre la minorité musulmane des Rohingyas. On va voir s'afficher une carte qui renseigne sur leur répartition dans les pays voisins vers lesquels ils ont fui, notamment le Bangladesh. Et il faut rappeler que le nombre total de réfugiés est le fruit d'une plus longue histoire de persécution, ce n'est pas juste les dernières années qui sont en cause, une longue histoire de persécution résumée dans une chronologie qui va également apparaître à l'écran. Julie Lavial-Prélois, comment expliquer une telle persécution et justement, est-ce qu'on peut parler d'une insensibilité donc Aung San Suu Kyi à leur égard ou est-ce qu'elle était coincée en fait par l'action de l'armée et que si elle élevait davantage la voix, bah, elle risquait de faire dérailler encore plus tôt qu'aujourd'hui cette fameuse transition.
Alors, il y a tout à fait ces éléments-là. Il y a ces éléments aussi structurels qu'on a évoqués plus tôt, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la main mise sur ce qui se passe en Arakan, hein, donc pour dans cette région de la Birmanie. Donc les militaires, ils ont sous leur joue les trois ministères clés de l'intérieur, de la défense et de la gestion des frontières. Donc on comprend bien qu'Aung San Suu Kyi, elle est bloquée un petit peu à ce niveau-là, hein, d'un point de vue institutionnel. En revanche, et c'est pour ça que ça a suscité tout de même des critiques, elle a un aura politique particulier. Donc on aurait pu espérer une réaction sur ce problème. Néanmoins, il n'y a jamais eu de promesse à cet égard faite par la LND, donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat et que la réaction occidentale est un petit peu délicate à cet endroit aussi. Donc Aung San Suu Kyi, dans un premier temps, ne dit rien. Le problème qui va se poser, l'événement plus problématique, c'est qu'en 2019, elle se présente aux côtés des généraux, donc devant le tribunal de La Haye, à la Cour internationale de justice, et qu'elle va reprendre les arguments des généraux, qui sont donc une justification de ses exactions en présentant une défense des intérêts birmans contre des terroristes. Et donc, en fait, Aung San Suu Kyi va complètement reprendre cette narration dans son plaidoyer de défense. Et donc, ça, c'est très compliqué, parce que à la fois, elle inscrit son discours politique alors sur cette question dans la continuité de ce que propose la junte, mais en plus, elle légitime d'une certaine manière cette action, alors localisée, mais elle légitime un discours ethno-nationaliste et xénophobe.
Alors moi, j'aimerais quand même insister sur un premier point, c'est qu'elle est arrivée, elle est conseillère d'État en avril 2016, et alors que personne n'a jamais rien fait pour les Rohingyas, quand même, en place en Birmanie, en août 2016, c'est-à-dire 3 mois à peine après son arrivée au pouvoir, elle établit une commission consultative pour les Rohingyas, qu'elle confie à Kofi Annan et qui est composée d'observateurs étrangers, mais également birmans. Et donc, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même faire attention, parce que là, on a jeté l'opprobre sur elle, alors qu'elle a essayé de faire avancer les choses. Vous savez, Aung San Suu Kyi utilise souvent un proverbe birman qui dit que quand les problèmes sont trop gros, il faut les rendre petits jusqu'à les faire disparaître. Nous, on a cru qu'en disant, en mettant en avant les exactions de l'armée, qui sont réelles, elles ne...
Oui, c'est pas rien.
Voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. On allait régler le problème. En fait, on n'a fait que l'exacerber. C'est un problème colossal, ce problème des Rohingyas, dont a hérité la Birmanie moderne. Cette population est arrivée notamment, était présente dans le royaume d'Arakan depuis le XVe siècle, mais est arrivée massivement au XIXe siècle avec les Britanniques. Elle a été protégée par les Britanniques, et quand les Anglais sont partis, ils ont laissé les Rohingyas là, sans régler leurs problèmes. Il y a eu donc, dans un premier temps, un compromis. Certains ont obtenu la citoyenneté birmane, et puis après les événements en Asie du Sud, et notamment la guerre du Bangladesh, qui a provoqué d'énormes mouvements de population, les généraux ont décidé de cette loi de la nationalité de 1982, qui a effectivement déchu les Rohingyas de cette citoyenneté. Et puis, il y a eu des politiques effectivement tout à fait abusives à leur égard, en termes d'éducation, d'accès à la santé, d'accès au travail, du nombre d'enfants. Enfin, donc, on est bien d'accord. Donc, dans ce climat-là, le fait qu'elle établisse une commission est quelque chose de positif. C'est un petit pas. Je ne dis pas que c'était suffisant, mais je dis que c'est un petit pas. Et là, on revient au statut d'icône d'Aung San Suu Kyi parce qu'elle-même n'en voulait pas. Elle a dit à l'Assemblée nationale française en 2012, surtout ne me considérez pas comme une icône, parce qu'elle n'est ni naïve ni cynique, mais elle sait parfaitement la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que le problème de l'État Rakhine, premier point, ça n'intéresse pas beaucoup les Birmans, et que deuxième point, dans l'État Rakhine, le problème des Rohingyas, ça intéresse encore moins les Birmans. Et que donc, elle est coincée entre ce mouvement ultranationaliste bouddhiste birman, hein, qui a été activé quand même très fortement autour des années 2010 par le moine Viratou et le mouvement Mabata, et d'autre part, l'armée sur laquelle elle n'a aucune capacité d'influence. Voilà, donc dans ce contexte-là, elle a quand même essayé de faire avancer les choses, et je crois que le fait que l'Occident ait crié haro sur elle avec des cris d'orfraie l'a vraiment excédée, franchement. Et quand elle est venue elle a été, si vous voulez, et ça c'était évidemment du pain béni pour les militaires. Hein, et elle n'a pas voulu quasiment leur faire ce cadeau, et donc elle a essayé de se justifier. Et quand on lit un peu entre les lignes sa défense, la Gambie l'avait accusée de tous les maux, quand on lit entre les lignes sa défense, elle essaye de faire passer des messages. Elle dit, oui, il y a peut-être eu intention, mais ce n'est pas la génocidaire, mais ce n'est pas la seule hypothèse. Il y a d'autres hypothèses, et il faut replacer ce problème dans une configuration d'ensemble qui est évidemment beaucoup plus sensible. Par ailleurs, à nouveau, son souci, sa priorité, c'est de refonder les critères de la citoyenneté birmane. Les Rohingyas, c'est un des problèmes, mais ce n'est pas le seul.
Voilà, on va y venir, parce que le problème des Rohingyas a été quand même bien documenté dans la presse française, anglophone. Justement, j'aimerais quand même revenir sur la particularité qu'ils ont, en quelque sorte. Justement, ils sont musulmans, ils ne sont pas bouddhistes. Donc là, il y a un aspect, c'est-à-dire qu'on va voir des cartes s'afficher hein, qui vont montrer à la fois le découpage en plusieurs états de la Birmanie, le fait qu'on retrouve donc des minorités ethniques sur les pourtours périphériques du pays, qu'en général, ce sont là où il y a des zones de conflit, des guérillas qui sont implantées depuis très longtemps, des chefs de guerre hein, qui sont implantés depuis très longtemps. Mais précisément, on parle beaucoup de minorités ethniques qui ne sont pas toutes des minorités religieuses. Peut-être qu'il y a un petit point pédagogique à faire sur la particularité des Rohingyas dans cette vaste problématique des minorités.
Alors, les Rohingyas, donc, comme on le disait, ce sont donc des Arakanais musulmans. Ils vivent en Arakan, ce sont des musulmans. Il y a des musulmans de longue date en Arakan, donc en effet, notamment au XVe siècle, au XVIe siècle, on a des souverains musulmans qui gouvernent le royaume d'Arakan. Donc, on a cette présence-là. Lorsque les colons anglais arrivent en Arakan, ils vont distinguer les « real natives », donc les vrais natifs, qui sont donc les Arakanais bouddhistes, des Arakan Mohammedans, donc des Arakanais musulmans. Et donc là, si vous voulez, déjà dans cette distinction, on a une première problématique qui se pose, c'est qu'on a donc l'opposition d'une autochtonie qui est fondée sur ce critère religieux, quoi. Ouais. Donc à l'échelle de l'Arakan, mais on voit bien que donc, ça, c'est un schéma qu'on va retrouver donc, plus globalement à l'échelle nationale. Et donc ensuite, on a ces migrations coloniales qui sont organisées par les Anglais, donc principalement du personnel administratif dans les grandes villes et de la main-d'œuvre agricole dans les zones périphériques, donc les frontiers areas. Et dans ces zones périphériques, et notamment en Arakan, cette main-d'œuvre, elle est indienne et on va amalgamer toutes ces populations. On va les regrouper sous le label Indian Race, donc race indienne. Dans lesquels on va ranger donc les Arakanais musulmans et ces populations immigrées plus récemment. Donc il y a toujours des mouvements, si vous voulez, d'assimilation de ces Arakanais musulmans qui sont posés comme étrangers finalement à cette période-là et qui vont être constamment amalgamés à des populations qui vont immigrer du Bangladesh voisin notamment.
Et sur les autres minorités là, qu'on voit sur les cartes, hein, ce qui est assez frappant, c'est que, si j'ai bien suivi donc l'histoire birmane depuis l'indépendance, c'est qu'au fond, il y a eu des découpages administratifs, territoriaux, qui se sont faits sur une base ethnique. J'imagine donc qu'il y a une part d'idéologie. Est-ce que c'est aussi une stratégie de division ? Comment on interprète ces mouvements-là ?
Bien, donc on reprend, si vous voulez, cette organisation coloniale, en effet, hein, qui délimitait donc le Ministerial Burma au centre de la Birmanie, donc peuplée majoritairement de population Bamar, donc le groupe social majoritaire, hein, et donc ces frontières area autour qui vont donner les 7 États aujourd'hui. Et donc, en fait, il y a des différences de droit, des différences d'administration et des différences également de citoyenneté, hein, et donc qui vont fonder, alors qui se superposent, pardon, pas complètement, mais si vous voulez, c'est toutes ces strates différentes, on voit bien qu'elles donnent à avoir un modèle social et politique qui est extrêmement complexe et extrêmement hiérarchisé.
Il y a aussi des zones d'autodétermination. Ça,
voilà, donc qui ont également...
C'est encore un autre statut plus
voilà,
récent.
Voilà, qui a donc plus d'indépendance reconnue. Voilà.
Et peut-être un mot, Sophie Boisseau-Durcher, je vous laisse réagir, mais en même temps, je prolonge le questionnement sur l'importance peut-être stratégique et économique de ces territoires dont on dit qu'il y a aussi énormément de matières premières. Donc j'imagine qu'il y a aussi cet élément matériel quand même qu'il faut pas oublier.
Bien sûr, et qui est un élément essentiel, hein, qui est un paramètre essentiel de l'équation birmane. Alors, effectivement, dans l'histoire, les Anglais ont bien compris, les Anglais qui ont quand même mis 3 guerres hein, avant de contrôler la Birmanie, il faut quand même en parler. Ça s'est fait en plus de 60 ans. Donc le nationalisme birman a résisté autant que possible. Et les Anglais qui ont fait, à mon avis, une erreur magistrale, quand ils sont arrivés, ils ont aboli la monarchie. Or, la monarchie était précisément un des éléments fédérateurs, si vous voulez, entre toutes ces populations. Alors, effectivement, la monarchie était peut-être décadente, mais néanmoins, elle représentait un élément fédérateur. Donc il n'y a plus d'élément fédérateur. Et au-delà, les Anglais ont envoyé leurs missionnaires, protestants, évangéliques et autres, dans les périphéries. Donc il y a eu une coupure encore plus forte entre les Bamars et les populations périphériques qui sont généralement chrétiennes, mettons, généralement chrétiennes. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'effectivement, on a une grande plaine centrale dans laquelle se concentrent les Bamars, environ 65% de la population, et puis des montagnes, si vous voulez, autour de cette plaine, plateau tibétain, généralement, et c'est dans ces montagnes que se trouvent les ressources, notamment les ressources minières, le bois, les pierres précieuses, le jade, et donc avoir accès à ces territoires est essentiel. Donc, c'est un d'ailleurs des facteurs aujourd'hui importants de la négociation, parce que quand l'armée était au pouvoir, elle a prévalu des tensions pour gérer, si vous voulez, ces ressources et s'octroyer le monopole de l'accès à ces ressources et non seulement à l'exploitation des ressources, mais également à la distribution de ces ressources. Et donc, si vous voulez, ça a été une source de revenus colossale pour l'armée. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on a ce paramètre-là qui rentre en ligne de compte, c'est que s'il y a un nouvel accord qui est trouvé entre ces États, ces ethnies et l'État central, il va y avoir une nouvelle répartition des ressources et à ce moment-là, l'armée sera privée, évidemment, d'un canal d'enrichissement très important pour ses revenus.
Oui, alors ça, c'est la dimension économique de la domination de l'armée qui est typique des régimes prétoriens. Hein, la junte a gouverné pendant des décennies. Et avant qu'on commence l'émission, Julie, vous me disiez, mais c'est vrai qu'il y a l'armée, par définition, a le poids de la coercition, a ses intérêts économique, mais ils fonctionnent aussi à l'idéologie. C'est-à-dire ils ont aussi une ressource de légitimation qui est l'idéologie, mais qui du coup vise donc 65% de la population s'ils ne sont pas capables de s'adresser aux autres.
Oui, c'est ça. Alors après, il y a des petites évolutions, et notamment ce marqueur du bouddhisme comme élément fédérateur qui va être repris, mais finalement qui est repris qu'à un niveau idéologique, puisque les pratiques coercitives demeurent à l'encontre des minorités. Donc, mais si vous voulez, cette capacité de légitimation de l'armée, on voit bien qu'elle décroît de plus en plus, encore une fois, donc c'est ce que je vous disais en début d'émission. Donc il y avait cette idée d'un rejet de la guerre de libération, mais aujourd'hui les Birmans ne veulent plus de ça. Et c'est ce que nous donne à voir les manifestations aussi aujourd'hui.
Et d'ailleurs, je souligne que les minorités aujourd'hui, enfin une grande partie des minorités dénoncent le coup d'État. hein, et disent qu'ils s'alignent derrière la LND. Donc, si vous voulez, on est bien d'accord que le travail de réconciliation qui a été effectué jusque-là est insuffisant. D'ailleurs, il n'a pas abouti. Mais néanmoins, c'est encore une étape, si vous voulez, et les Birmans sentent bien, je suis tout à fait d'accord avec Julie, les Birmans sentent bien que c'est la seule voie possible, que l'armée, en tout cas, c'est le retour des divisions, c'est le retour des prédations, et ça, ils n'en veulent pas.
On s'achemine vers la fin de l'émission. Je voulais quand même vous poser une question, que ce soit pour l'armée ou pour la LND. Qu'est-ce qu'on sait de leurs éventuelles divisions internes? Parce qu'on en parle comme deux blocs, mais j'imagine que dans la LND, qui a quand même un vaste rassemblement depuis le début, il y a aussi des factions qui sont sans doute pas institutionnalisées, mais j'imagine qu'il y a des sensibilités différentes. Et idem du côté de l'armée. Je ne sais pas qui veut commencer peut-être.
Alors sur la LND, tout le monde pour l'instant est derrière Aung San Suu Kyi. Ça, il y a pas de doute. Néanmoins, certains ont quand même critiqué la difficulté qu'elle a personnellement à partager le pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans toutes les interviews qu'on a menées au Myanmar. C'est vraiment un trait qui revient régulièrement. Je dirais que Aung San Suu Kyi est atteinte d'un complexe de supériorité. Elle est excessivement élitiste et elle ne supporte pas les tâtonnements. Et donc, si vous voulez, elle a beaucoup de mal à écouter les autres quand ils préconisent des solutions auxquelles elle ne souscrit pas d'emblée. Donc c'est véritablement un problème parce que, et c'est le pari précisément que font les militaires, on revient à ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que sans Aung San Suu Kyi, est-ce que la LND peut tenir ? Si vous voulez, parce qu'elle n'a pas suffisamment formé la nouvelle génération. Hein, et elle s'est entourée de vieux conseillers qui, aujourd'hui, sont un peu anachroniques, si vous voulez, par rapport aux défis qui se posent. Ça, c'est le premier point. Au sein de l'armée, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a très peu d'études récentes sur les divisions qui travaillent cette institution. On sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Je vous rappelle quand même qu'en 1988-90, on a su après qu'il y avait des généraux qui ne préconisaient pas la mise en place du Conseil pour l'ordre, donc de la junte. Mmh. Donc il y en a qui préconisaient au contraire un compromis. J'imagine que la situation est la même aujourd'hui. Et je suis d'ailleurs frappée de voir que le général Mine avance assez lentement, finalement. Hein. Il n'est pas tout à fait sûr de lui. Voilà. Maintenant, c'est excessivement difficile de pénétrer les rouages de cette institution parce qu'elle veut rester, et ça fait partie de son pouvoir, elle veut rester impénétrable.
Bon, et bien merci à toutes les deux, en tout cas, pour avoir répondu à nos questions sur la Birmanie. J'espère qu'on vous aura éclairé sur la situation. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à aller sur mediapart.fr pour regarder tous les autres grands entretiens du studio.